Madame Chirac, Bernadette. Sur vos roues, j'ai perdu mes dents. Sur vos roues, j'ai vu la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en 1027. Interrogez les rues d'un gars, sans oublier rue de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain. C'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais saint, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas. Cela peut arriver au prophète. Monsieur le président, Madame Chirac, Bernadette. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains. Au moins qu'à celui lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer du futur, la gloire de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à Marceau Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du tout de Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rachat de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, j'entends Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les tenues de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, la gloire tout de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges ceux qui m'ont jugé tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, Serge des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, la gloire de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, la gloire de la preuve. La rage.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM. Aujourd'hui, nous sommes avec Samuel. Samuel, bonjour.
Bonjour.
Et nous avons un invité, Mohamed Amer Méziane. J'ai bien prononcé ton nom ?
Oui.
Parfait. Alors, nous te recevons pour ton excellent ouvrage « Des empires sous la terre, histoire écologique et raciale de la sécularisation » aux éditions La Découverte.
C'est ça.
Voilà. Alors, Samuel, à toi.
Est-ce que peut-être tu pourrais commencer par te présenter pour nos éditeurs qui ne te connaissent pas, une petite présentation sur ton parcours et ce qui t'a mené à faire ce livre ?
Ça, c'est une question un peu compliquée, même si elle se formule simplement. Mon parcours, moi, en fait, à la base, j'étais musicien et je le suis toujours. Ensuite, j'ai découvert la philosophie via un professeur et ça a complètement renversé beaucoup de mes certitudes et ça m'a donné un langage pour comprendre la société dans laquelle j'avais en partie grandi, qui était la France. Parce qu'en fait, je suis né à Londres de parents algériens et en fait, ma langue maternelle était ni l'arabe ni le français, mais l'anglais. Et en fait, on s'est retrouvés à cause de plusieurs guerres. La première étant la guerre du Golfe, et ensuite la guerre civile en fait en Algérie dans les années 90, à devoir aller en France, ce qui n'était pas du tout une volonté ou un désir de mes parents. Et donc en fait, j'ai toujours eu une expérience en France où j'avais la sensation qu'on allait toujours repartir, et je me sentais à la fois présent et très absent de ce pays, quoi. Et en fait, la philosophie, d'une certaine manière, m'a permis de comprendre quelle idéologie, d'une certaine manière, ou quel discours et quel ensemble de croyances il y avait derrière ce qui s'appelait la société française, la République, liberté, égalité, fraternité, etc. Non pas que j'étais contre, en fait, je le suis toujours pas d'ailleurs, mais j'ai toujours vu ça un peu avec les yeux d'un ethnographe ou d'un anthropologue, à la fois dedans, mais aussi dehors. Et donc, d'une certaine manière, le livre n'est que la formalisation ou la continuation de ce processus, en fait, qui a consisté à essayer de comprendre un peu comme un anthropologue où j'avais mis les pieds pour des raisons un peu enfin indépendantes de ma volonté, quoi, en gros en France et puis plus largement en Europe occidentale, quoi. Et après, l'écriture, plus spécifiquement de ce livre, a commencé dans les années à peu près 2010, quoi. Non pas l'écriture en tant que telle. Après, je veux pas anticiper sur le contenu, mais disons, ce qui a commencé à ce moment-là, c'est le début du questionnement. Et le questionnement, c'était d'essayer de comprendre un peu la nature des débats politiques qui commençaient à émerger à ce moment-là et qui, du coup, à mon avis, existe encore et qui en fait explique pourquoi il y a une sorte de droitisation un peu généralisée de l'espace public. Voilà.
D'accord. Et c'est un livre, bon, de toute façon, on va y revenir tout au long de l'émission, pour lequel tu as pas mal d'auteurs qui t'ont inspiré, mais c'est des auteurs qui sont pas très connus en France, pour une partie d'entre eux, parce qu'on Foucault à la limite, qui est un des principaux, est assez connu en France. Par contre, c'est vrai que Talal Assad, qui est quand même, tu me corriges hein, si je me trompe, mais quand même presque un fondateur d'une école anthropologique de la critique du sécularisme, quoi. Il n'est pas du tout connu en France. Est-ce que tu pourrais le présenter en deux phrases et en profiter, quand tu nous présentes Assad, pour nous présenter un peu... C'est quoi sa thèse novatrice sur le sécularisme et...
Il n'a pas de thèse novatrice, c'est quelqu'un qui a ouvert des... Il a posé de nouvelles questions, il a proposé de nouvelles hypothèses. Donc c'est quelqu'un, c'est un théoricien qui est très ouvert dans sa manière d'affirmer les choses. Donc je ne sais même pas s'il a des thèses. Mais pour le présenter rapidement, c'est compliqué, c'est tout un thème en tant que tel. La première chose qu'il faut dire, bon, déjà c'est le fils de quelqu'un qui est très connu et sur lequel vous pourriez faire toute une émission et que je vais pas mentionner, mais qui est une figure très connue. Il s'appelait Léopold Weiss et qui est devenu Mohamed Assad. Par ailleurs, c'est un anthropologue, donc un des plus grands à l'échelle internationale, sans aucun doute, qui a, dans les années 70, commencé à interroger la dimension coloniale de l'anthropologie. C'est un des premiers à avoir fait ça, c'est-à-dire d'avoir dit... Quid de cette science, en fait, ou de ce type de savoir, s'il est lié à l'histoire coloniale, et peut-on encore le considérer tout simplement, la considérer, pardon, comme une science, quoi. Bon. Donc c'est comme ça qu'il est un peu entré qu'il a commencé son œuvre, quoi. Et en fait, ce livre, qui était un ouvrage collectif qui a été publié au tout début des années 70, a en fait inspiré Edouard Saïd. Donc Edouard Saïd est un peu plus connu, qui a écrit donc l'orientalisme, qui a donné lieu en fait aux études postcoloniales. Sauf que si vous lisez en fait les œuvres de Talal Assad du tout début des années 70, toutes les études postcoloniales sont déjà dedans. D'ailleurs, d'autant plus important son essai de ces années-là, donc qui a servi de base à l'orientalisme.
Tu peux te donner le titre? C'est la rencontre coloniale, c'est ça?
Ouais, c'est ça, exactement. The Colonial Encounter, c'est donc la rencontre coloniale, c'est le titre de l'ouvrage collectif qu'a édité et dirigé Assad. Le second texte auquel je faisais référence, c'est l'essai que lui a publié comme faisant, enfin, dans ce livre, qui s'appelle Deux images européennes du pouvoir non européen.
Et Genealogies of Religion,
bien plus tard.
D'accord,
bien plus tard. Et en fait, si on regarde ce texte, c'est ça qui est, en un sens, à mon sens, beaucoup plus important, en fait, en un sens, que ce qu'a fait Édouard Saïd. C'est qu'Édouard Saïd a seulement critiqué l'orientalisme, donc les représentations de l'Orient, entre guillemets, et des populations d'Afro-Asie, disons, et surtout d'Asie, par l'Occident, notamment, représentation littéraire est liée au pouvoir, mais tout de même littéraire, quoi. Alors que ce que fait Assad, c'est qu'il compare l'africanisme et l'orientalisme, en montrant justement comment ces deux discours sont liés l'un à l'autre, quels sont les, alors en affirmant aussi que l'africanisme a une tendance, et ça inclut aussi la construction des anthropologique de ce qu'on, de des populations berbères par opposition aux populations arabes, par exemple, de dire des sociétés horizontales, alors ce qu'on présuppose un peu plus quand même primitives que les autres, mais tout de même elles sont un peu plus horizontales et démocratiques, et de l'autre côté on a une représentation de pouvoir purement vertical, avec un peu ce truc de despotisme éclairé, du despotisme oriental, etc. Bon. Et du coup c'est pour ça qu'il appelle ça deux images du pouvoir, on aurait pas, et comment il fonctionne. Bon, mais c'est un texte qui a eu beaucoup moins d'écho, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il, donc, d'une certaine manière, il a lancé les études postcoloniales, et dès qu'elles se sont lancées, il s'est retiré. Il a commencé à faire des choses complètement différentes, et a justement critiqué de l'intérieur ce qu'il y avait de colonial dans l'anthropologie, mais d'une certaine manière, en disant pas, c'est juste colonial. Oui, mais et donc, où c'est raciste? Parce que ça, à la limite, c'est vrai, c'est faux, voilà, bon, c'est un débat idéologique, mais le problème, c'est quels sont les présupposés, les formes de savoir qui sont liées à ce qu'on appelle la colonialité, et qui, bien sûr, ne s'énoncent jamais comme telles, et qui, d'ailleurs, ne sont pas forcément des présupposés qui servent à coloniser les populations. C'est beaucoup plus complexe que ça, quoi. Bon. Et effectivement, au fur et à mesure, donc ça, c'est plutôt ce qu'il a fait dans les années 80, c'est une de ses grandes hypothèses, c'est que le concept de religion est construit. Thèse à laquelle j'adhère complètement, mais je ne suis pas du tout le seul, parce que pour moi, et pour d'autres, c'est un point de départ sur lequel, à mon sens, on ne peut plus revenir, parce que ça a été démontré anthropologiquement. En fait, c'est-à-dire la religion n'est pas un concept qui va de soi, c'est pas un terme universel, il n'y a pas des religions partout, il n'y a pas des croyances partout, c'est un concept aussi qui est complètement européen et eurocentrique, avec des fortes origines romaines et chrétiennes. Donc en gros, quand on parle de religion, même si c'est pour dire que la religion c'est nul, on est chrétien. Voilà. Donc on voilà. Et du coup, à partir de là, ce qui se passe, c'est que la méthodologie va devoir changer. Une méthode d'analyse de ce qu'on appelle nos sociétés modernes va devoir changer, à savoir, la question n'est pas de savoir qu'est-ce que la religion. De toute façon, personne n'a jamais donné de définition de la religion qui tenait la route. Personne. C'est impossible. Ces traditions, ces pratiques sont trop variées pour qu'on puisse trouver, en fait, un dénominateur commun qui permet de dire le religieux, c'est ça. Donc, en fait, il faut arrêter d'essayer de dire qu'est-ce que c'est que la religion et est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, mais de dire qui est-ce qui l'a défini, qu'est-ce qui croit qu'il y a de la religion, pourquoi faire, et quels sont les types de pouvoirs qui émergent à partir du moment où vous dites il faut définir la religion et dire ce qu'il est et ce qu'il n'est pas, quoi. Ce qui est une toute autre méthode. Donc moi, je me suis inspiré de ça, et par ailleurs, effectivement, on a eu des échanges, etc., qui est une des raisons pour lesquelles je suis allé à New York et que je suis fini par enseigner là-bas, une raison parmi d'autres. Mais et je tiens à signaler au passage qu'effectivement, c'est une figure qui est pas du tout marginale dans le monde entier, monde anglophone, mais aussi ailleurs. C'est une figure assez centrale, bien que controversée par certains aspects, mais très très lue et discutée, quoi.
Alors, en résumé, tu es agrégé et docteur en philosophie et tu es chargé de recherche et enseignant à l'Université de Columbia, de New York. Mmh. Voilà. C'est ta biographie officielle chez La Découverte.
Oui, c'est ça. Voilà. Qui a un peu changé, mais on ne va pas compliquer.
On ne va pas compliquer les auditeurs.
Non, non, ça va.
Alors, Samuel.
Et du coup, ce qui a permis de créer ce concept, donc ce qui a mené à la création de ce concept de religion, qui a effectivement donc été beaucoup employé, que ce soit en anthropologie, en histoire, peu importe, c'est la pensée séculière ou sécularisée.
Ouais.
Et ce qui pour toi donne lieu carrément à une ère anthropologique, bon, peut-être qu'on y reviendra, mais que tu nommes sécularocène, mais...
Géologique, tu veux dire.
Géologique, pardon. Oui.
Ouais, entre guillemets.
Ouais. Mais si on devait commencer à tenter de définir ce qu'est le sécularisme ou ce qu'est... bon, moi, j'ai peut-être tendance à retomber dans le diptyque pensée-action, mais... Est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de conscience spécifique à la modernité, une forme d'appréhension du sacré, de définition du sacré, et donc du divin? Est-ce que c'est un produit de l'impérialisme, du colonialisme, c'est un produit de pratique, c'est une pensée qui a... Il y a un rapport dialectique entre la pratique et la pensée dans l'espace colonial, dans l'espace impérial, qui ensuite a un effet rétroactif sur la métropole. Comment... Est-ce que forme de conscience et de pratique, ça te paraît intéressant comme point de départ?
Pour dire ce que c'est, quoi.
Pour dire ce que c'est.
Ok, bon... Il y a différents termes dans la phrase, et je vais essayer de partir de quelque chose de très accessible et simple pour essayer de revenir à la base et pas compliquer les choses inutilement trop vite. Alors, sécularisation, c'est pas la même chose que sécularisme, qui est pas un terme habituel. Donc je vais commencer en fait par le premier. Parce qu'en fait, moi, je parle pas tellement dans ce livre de sécularisme, ni même vraiment de laïcité, qui est donc ce à quoi sécularisme correspond en France, mais plutôt de ce processus-là de sécularisation. Donc d'abord et avant tout, pour moi, c'est un processus, ou un ensemble de processus. Donc c'est une mutation, un devenir, une transformation, quoi. Ce qui m'a intéressé, donc je crois que je l'ai dit au début... c'était de comprendre, et des auteurs plus connus en France font ça aussi, c'est-à-dire les anthropologues plus connus en France, comme Descola ou Latour, ils ont aussi essayé d'analyser la modernité occidentale, mais voilà, la modernité aussi qui s'est globalisée, de façon anthropologique, justement, en disant, c'est pas des sociétés plus évoluées que les autres, c'est simplement qu'on doit analyser avec les mêmes méthodes les sociétés dites enfin non occidentales, quoi, dites non modernes, et les sociétés modernes elles-mêmes. C'est-à-dire on peut pas avoir des modes d'analyse opposés. On peut pas présupposer, par exemple, la division entre, d'un côté, il y aurait la vraie science moderne, et de l'autre côté, il y aurait que des croyances entre guillemets primitives et non scientifiques. Enfin, ce type de partage, l'idée, c'est de justement remettre ça en cause, quoi. Bon. Donc moi, d'une certaine manière, j'essaye de comprendre ce qu'on appelle le monde moderne, et pourquoi, et comment surtout, les sociétés qu'on dit occidentales se sont orientées dans la direction qui ont été la leur, et pourquoi c'est une direction qui est spécifique, pourquoi il y a eu une hégémonie de ces sociétés-là sur les autres, et aussi quelles ont été les conséquences, tout simplement, de ces évolutions-là pour tous, et notamment toutes et tous, et notamment pour notre planète, quoi. C'est ça, en fait, les questions. Grandes questions, mais questions auxquelles on peut répondre. Du coup, sécularisation, malgré le caractère technique du terme, est une manière, c'est une manière de comprendre les processus qui ont conduit à... si tu veux, ce développement particulier qu'on appelle l'Occident, quoi. Voilà. Alors, du coup, est-ce que c'est une pratique ou est-ce que c'est... Bon, ça, c'est une bonne question. Et je dois avouer qu'y répondre là va être compliqué. La première chose, c'est que c'est l'agencement de plusieurs choses. Pour le dire simple, c'est évidemment un système d'exploitation. Exploitation des populations, alors du globe, mais ça implique l'exploitation du travail de ces populations, que ça soit en Europe ou ailleurs. Donc, ça, c'est de manière... C'est-à-dire que c'est lié au capitalisme, donc c'est un système matériel d'exploitation la force productive, en gros, pour le dire comme ça. C'est un système d'exploitation des ressources, et donc de la terre elle-même. Donc ça, c'est pareil, c'est matériel. Ensuite, c'est un ensemble d'institutions. C'est pas simplement une économie, mais c'est un ensemble d'institutions au centre duquel se trouve l'État. Donc t'es obligé aussi... d'essayer de comprendre ce que c'est qu'un État. Par État, j'entends pas toute forme d'État, j'entends en gros un État territorial qui découpe ses frontières, bref, ce qu'on appelle en gros vulgairement aujourd'hui un État-nation.
Un État moderne.
État moderne, voilà. Bon. Et ça, c'est pour ça que j'ai employé la catégorie d'impérialité, on en parlera peut-être plus tard, pour essayer de comprendre cette deuxième dimension proprement institutionnelle. Et il y a une dimension idéale, si tu veux, qui pour moi n'est pas juste l'effet du reste. C'est-à-dire, je ne considère pas qu'il y a la réalité qui est matérielle et les idées en découlent de manière nécessaire, puisque justement, une des raisons pour lesquelles on ne peut pas faire ça, c'est que cette lecture-là, elle est liée justement à... c'est un présupposé moderne, quoi. Voilà. Et donc, ça veut dire que cette lecture-là, disons, vaguement marxiste, là, ou matérialiste, elle fait partie justement de l'ontologie moderne ou séculière. Voilà. Donc, ce qui m'amène à la troisième, j'ai déjà commencé à le dire, le troisième élément, bah, c'est les éléments qui sont liés au discours. Voilà, les types de discours, ce qu'on dit lorsqu'on fait ça, ce qui a été dit lorsqu'on a exploité la terre d'une certaine manière et quand, en gros, le capitalisme est devenu un capitalisme hégémonique et fossile, quoi, pour le dire comme ça. Et donc, la question des discours, c'est ce qu'on dit, ce en quoi on croit, et les valeurs, si tu veux, auxquelles on adhère et qui ont évidemment une incidence directe sur les pratiques et la manière dont on va agir et la manière dont on va sentir dans un certain type de corps et de subjectivité va pouvoir apparaître, quoi. Bon. Du coup, j'ai dit ontologie, je pourrais même dire, si je voulais forcer le trait, c'est une certaine forme de métaphysique, en fait. Voilà. Et c'est pour ça que le livre a cette organisation, et c'est pour ça aussi que le livre se structure plus ou moins autour de l'énoncé d'une thèse qui consiste à dire la critique du ciel a bouleversé la terre. Alors, ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'en fait, ce que les modernes ont dit à partir du 19e siècle, ça c'est une de d'autres différences, mais que j'espère pouvoir préciser plus tard dans d'autres livres, entre ce que j'essaie de faire et des hypothèses plus proches de celles de Latour et d'autres, c'est que moi je pense qu'il y a quelque chose de spécifique qui s'est passé au 19e siècle, voilà. Même si tout ça a commencé bien avant, au 15e, mais il y a quelque chose de spécifique qui s'est passé. Et une des choses qui s'est passée, c'est que justement on sort d'un cadre purement chrétien, et on est dans un cadre au sein duquel tout ce qui était vu comme un au-delà, donc le ciel, le paradis par exemple, pour le paradis, le salut, voilà, en fait était projeté au-delà. En tout cas, c'est ce qu'on dit des religions à ce moment-là. C'est une projection au-delà, dans un truc illusoire, etc. Dans un monde illusoire, pardon. Et du coup, ce qui se passe, c'est que on ne dit pas il faut abandonner toute perspective de salut ou abandonner tout désir de paradis. Ce n'est pas du tout ce qu'on a dit, hein. À partir du 19e siècle, on a dit ce qui a été imaginé au-delà, on va le faire ici, sur Terre. Donc on a transféré, en fait, nos désirs et nos besoins de salut sur la Terre. En se disant quoi ? En se disant... À partir de quel moment est-ce qu'on va réaliser le bonheur terrestre, le paradis sur Terre? À partir du moment où on aura organisé des sociétés modernes fondées sur la croissance illimitée et l'enrichissement de toutes et tous, soi-disant, évidemment. À quel prix? L'exploitation du globe. Donc, l'investissement du système, en gros, qu'on appellerait de la croissance, du système capitaliste d'exploitation des richesses, etc., qui est aussi, bien sûr, un système d'exploitation impériale et coloniale, qui a aussi des dimensions sexistes, etc., sans aucun doute. Ce système-là, il a été investi et justifié, non seulement pour des raisons qui sont idéologiques, mais pour des raisons qui sont littéralement théologiques et métaphysiques. On a dit, il n'y a qu'un seul monde, d'accord ? Les religions, c'est des illusions. Ok, très bien. Par contre, le salut, c'est bien, on garde. Et on le fait où ? Sur Terre. Et la seule thèse que je dis, c'est à partir du moment où on fait ça, on a bien le droit de le faire. Mais ce qui s'est passé historiquement, c'est que si vous mettez le salut sur Terre, vous transformez la Terre elle-même. Et c'est ce qui s'est passé.
Oui. Alors, tu insistes dans ton premier chapitre sur l'expédition d'Égypte.
Oui.
J'ai revu mes cours d'histoire, ouais, où on a la fameuse phrase de Napoléon, 10 du haut de ces pyramides, 40 siècles vous regardent. On voit l'enseignement de cette période et de cette expédition dans nos manuels et dans nos, dans nos écoles comme étant quelque chose de superficiel. Toi, tu démontres que tout part de là. Est-ce que tu peux commencer tout simplement
à expliquer ça?
Oui, s'il te plaît.
Ouais, absolument. Alors, ça, pour le coup, la première chose que je voudrais dire là-dessus, c'est que... plusieurs choses à dire. Là, il y a évidemment une question méthodologique, c'est-à-dire que la manière dont souvent les... il ne faut pas que je dise l'Occident parce que c'est trop large, mais la science, les sciences sociales européennes, la manière dont elles se sont elles-mêmes considérées, dont elles ont raconté l'histoire de l'émergence de la modernité, d'accord, c'est à partir de causes anthogènes, c'est-à-dire en disant... C'est le christianisme, souvent c'est ce qu'on dit. Hein. Le christianisme, c'est une religion particulière qui a la particularité de pouvoir engendrer un développement qui fait que justement ça donne lieu à des sociétés modernes et sécularisées ou libérales. Quoi.
Et quand même Hegel qui est le grand penseur de cette thèse. Quoi.
Voilà.
C'est lui qui a fondé cette thèse. qui en fait est devenue, qui à mon avis beaucoup plus qu'une thèse, parce qu'en fait elle est répétée même sous des formes un peu moins spéculatives.
Nuancée, ouais.
Voilà, c'est ça, mais il est parfois d'ailleurs plus nuancé.
L'État divin sur Terre, l'islam et la mort de l'Orient et le triomphe de l'Occident.
C'est ouais, ça. Voilà. Ouais, ouais. Oui, c'est le genre de choses qu'on disait à l'époque. Ouais.
Oui, c'est presque devenu un mode d'appréhension.
C'est devenu un
mode d'appréhension de la réalité.
C'est un mode d'appréhension, ouais. Effectivement. Ouais. Ouais. Et du coup, avec cette idée selon laquelle... vous pouvez dire l'Occident est génial ou la modernité... L'Occident est génial parce qu'il a engendré la modernité par lui-même, ou alors de dire l'Occident c'est horrible puisqu'il a engendré la modernité par lui-même. C'est pareil, en fait. Hein. Moi, je suis pas en train de dire l'Occident c'est horrible parce que... Non. Je suis en train de dire la manière dont on lit l'histoire de cet Occident, il faut changer la manière de faire. Donc c'est une question de méthode. Je ne suis pas en train de dire c'est bien, c'est mal. L'eurocentrisme, c'est quoi? C'est de dire l'Europe est devenue ce qu'elle est devenue juste parce que c'est l'Europe. Bon, c'est faux. Parce que ce qui compte, c'est que l'Europe, jusqu'à preuve du contraire, n'est qu'un continent sur la planète.
Oui.
Et donc, la question, c'est celle des interactions entre l'Europe et le reste du monde. Bon, il y a eu des interactions à partir du XVe siècle. L'idée n'est même pas de dire ces interactions sont simplement horribles, etc. Bon, elles sont horribles par plein d'aspects, puisqu'elles ont été esclavagistes, elles ont été évidemment racistes, etc. Sans aucun doute. Néanmoins, moi, ce que j'essaie de dire, c'est de dire, non mais attendez, évidemment qu'il y a ça, mais il y a un effet de retour. C'est-à-dire que s'il y a des interactions entre les métropoles et les colonies, que les métropoles européennes et les États, et d'ailleurs, ces métropoles européennes deviennent des États-nations qu'à travers ce processus, si... Elles ouvrent des espaces ultramarins. Ça veut dire qu'elles ouvrent des espaces d'interaction entre l'Europe et ce qui n'est pas l'Europe. Donc c'est impossible de dire que ça ne les transforme pas.
Oui.
Donc comment vous pouvez faire l'histoire de la France moderne, pour ne parler que de la France, hein, sans comprendre l'histoire de ces interactions avec les territoires en fait, que la France a tout simplement colonisés?
Oui.
C'est impossible. Le vrai problème, en vérité, moi je me heurte au fait de dire « Ah oui, non mais comment ?» Mais moi en fait j'ai envie de dire « Mais comment c'est possible que vous ayez écrit l'histoire jusqu'ici sans prendre ça en compte ?»
Tout à fait.
En fait c'est ça qu'il faudrait dire. Et donc, effectivement, il me paraît impossible, pour reprendre la question, l'événement de la Révolution française. La Révolution française, c'est donc, comment on la raconte, donc d'un coup, les Lumières ont éclairé le monde et la France a découvert que, l'homme existait, d'accord, merci, il avait des droits. Et avant, pendant des millénaires, c'était l'obscurité, etc. Bon, alors ils ont révélé, etc., de nulle part, on ne sait pas d'où ça vient. Et ensuite, il y a quand même des petites oppositions entre plusieurs camps. Ensuite, Robespierre arrive, c'est un peu le... Voilà, c'est la terreur, c'est pas bien, on coupe des têtes. Et puis ensuite, bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a un peu des changements de régime, etc. Et puis, d'un coup, d'un seul, Napoléon arrive. Alors, des fois, on le considère comme un dictateur. Des fois, on considère que, bon, quand même, il a institutionnalisé la Révolution française, donc c'est quand même bien. Et voilà. Donc, ce par quoi, alors là, je fais ça en blaguant, mais c'est que souvent, cette histoire est écrite de manière idéologique. C'est-à-dire que... Comment voulez-vous écrire l'histoire objectivement de cet événement si vous êtes dans une pratique de la science et du savoir qui consiste à défendre une idéologie républicaine qui par ailleurs peut-être est très bien. Mais le problème c'est que là on parle de faire une histoire pas de défendre un modèle. Et du coup, si on reprend le fil de cette histoire, il y a un moment donné où Napoléon, il arrive d'où en fait ? Il vient d'où ? Comme on sait, il vient pas de France, il vient d'une marge qui est à Corse. Et la question, c'est de savoir comment ce militaire, donc comme vous savez, un militaire, comment se fait-il qu'il prend le pouvoir ?
Et ça, c'est très bien décrit dans les deux premiers chapitres de ton livre.
Ben, je te remercie. Et la manière dont il prend le pouvoir, c'est qu'à un moment donné, il a besoin de se forger une popularité. Qu'il utilise très bien les médias pour se faire. Ça a été montré par des historiens, j'invente rien. Mais sauf qu'il l'a créé où, en fait, cette popularité ? Il l'a créé en Égypte.
D'où ce fameux voyage en Égypte qui est au centre de tout.
Alors, évidemment, il faut essayer de pas dire que ça serait la nouvelle réponse univoque, etc. En revanche, c'est un élément que j'essaie d'intégrer dans l'histoire pour, et qui, évidemment, à partir du moment où vous intégrez un nouvel élément dans une histoire, bah, tous les autres éléments vont apparaître de manière différente, quoi. Et donc, effectivement, moi, j'ai été surpris. Je pourrais dire aussi pourquoi je me suis intéressé à cette phrase. Aussi parce que je suis pas le premier à m'y être intéressé, et quelqu'un qui s'y est intéressé, c'est justement Edouard Saïd, à cette phrase. Donc, je crois que tu as mentionné qui est la suivante, qui est que Napoléon Bonaparte, quand il arrive avec l'armée, qui est une armée révolutionnaire, hein, en Égypte, il dit au peuple d'Égypte, nous, Français, nous sommes de vrais musulmans. Donc, il déclare que l'armée française est musulmane. Alors, donc Edouard Saïd avait bien vu cette phrase, il avait dit, bon, c'est une phrase importante, c'est ça l'orientalisme, pour le coup. Et à mon sens, il n'était pas allé suffisamment loin. Parce qu'il faut remarquer au moins deux choses, et c'est ce qui ouvre un peu la perspective du reste du livre. Il faut remarquer que, s'il dit ça, évidemment que c'est un acte d'opportunisme stratégique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais la question, c'est de dire qu'est-ce qui fait que, par exemple, probablement, si vous prenez le même événement, c'est-à-dire une tentative de conquête par la France de l'Égypte un siècle plus tôt, c'est quasiment sûr qu'il n'aurait pas dit ça. Il aurait dit, nous sommes chrétiens et on vient vous convertir.
Voilà.
Mais sauf que là, l'armée en question, c'est une armée qui a lu les Lumières, qui est en gros sécularisée, plutôt anticléricale et, pour le dire vulgairement, bouffeur de curé, comme on dit parfois. Donc, c'est pas pour dire que tout anticléricalisme est colonial, c'est pas ça qu'on dit. Mais par contre, le fait est que là, on a affaire à un anticléricalisme qui devient un acte impérial. De facto. C'est-à-dire, j'invente rien, en fait. C'est là. Et donc, comment on l'explique ? Et lui, il ne peut dire ça, nous sommes de vrais musulmans, que parce qu'il dit au moins deux choses auxquelles il croit, je pense. Nous ne sommes pas des chrétiens. Notre ennemi est l'Église, donc nous avons un ennemi commun qui est l'Église. Mais ça, c'est ce qu'il projette sur les musulmans, par ailleurs, parce que d'ailleurs, en Égypte, il y a des Coptes, enfin, c'est pas aussi simple que ça, justement. Par ailleurs, il dit... Donc là, on voit bien que c'est un geste anticlérical, quoi. Bon. Et par ailleurs, il dit... il dit, nous sommes... De vrais, j'ai oublié... c'est pas grave, on fera une pause.
Mais, on va faire une pause, de toute façon.
Il dit... qu'il se prend, en fait... C'est ça qui est intéressant. Il se prend pour Mahomet. Voilà. Et donc, pourquoi ? Parce qu'il voit le prophète... comme un législateur, donc comme quelqu'un qui donne une loi au peuple. Ça, c'est quelque chose qui vient de Rousseau. Ce qui montre qu'il a une conception, en gros, de l'émergence, de l'apparition de ce qu'on appelle l'islam, de l'émergence historique, hein. En termes politiques, consiste à dire « c'était un grand homme ». Donc c'est là qu'on n'est plus dans un cadre chrétien, qui consiste à dire « c'est un faux prophète, c'est l'antéchrist, c'est le diable, etc. » Mahomet ou Mohamed. Mais là, qui consiste à dire « non, non, en fait, c'était un grand homme ». Législateur, sauf que son successeur, c'est moi.
Et maintenant, vous allez m'obéir.
Évidemment, parce que, en fait, le fait de revendiquer une autorité musulmane ou pseudo-islamique, c'est un acte stratégique dans la mesure où il ne s'agit plus de convertir les populations au christianisme et qu'en fait, il ne s'agit plus de le faire d'une part parce que c'est inefficace. Tout le monde considère ça dans les stratèges de l'époque comme inefficace et impossible. Et que d'une certaine manière, non seulement ça traduit une laïcisation de l'Empire, et en même temps, ça va accélérer la laïcisation de l'Empire elle-même. Pourquoi ? Parce que s'il ne s'agit plus de les convertir, ça veut dire qu'il faut inventer d'autres types de techniques. Voilà. Et le fait de dire « on ne va plus les convertir », ça exprime aussi le fait qu'il y a déjà eu une part de sécularisation en Europe. Donc, c'est pour ça que le livre commence là-dedans. Comment c'est possible, en fait, de ne pas prendre en compte ce moment-là pour comprendre ensuite ce qui se passe en France. Alors, c'est pas que, lui, que ce moment-là a tout expliqué de ce qui se passe en France, mais il y a des similitudes. Par exemple, Napoléon, son rapport aux religions en France, c'est pas un rapport... lui, probablement, a été athée. Mais c'est pas vraiment le problème, parce que lui, c'est pas son problème, en fait, justement. Son problème, c'est de dire comment je gère les religions dans l'espace public. Et là-dessus, il n'est pas en Égypte ni en Europe, il n'est pas bêtement anticlérical parce qu'il est stratège, dans la mesure où ce qu'il dit, c'est que malgré son anticléricalisme au sens de la critique de l'Église, il a une vision stratégique qui consiste à dire si la religion de la majorité, c'est le catholicisme, je me fais catholique en Europe, comme je me suis fait musulman en Afrique. Voilà.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Nous sommes dans la deuxième partie de l'émission avec Monsieur Mohamed Amer Méziane pour son livre « Des empires sous terre, histoire écologique et raciale de la sécularisation ». Donc, j'en étais venue on avait abordé le passage sur Bonaparte et la technique de contre-insurrection. Alors, Monsieur Méziane, est-ce qu'on peut dire que la tolérance, l'apparence tolérance de Bonaparte est une technique de contre-insurrection ? Pourquoi ?
Ah bah, il suffit juste de regarder, de décrire ce qui s'est passé en fait. C'est une conquête militaire.
Oui.
Bon, en général, quand il y a une conquête militaire d'un peuple, le peuple résiste.
Et oui.
Donc il y a une insurrection. Donc la question qui se passe, c'est que après avoir soumis une population en gagnant la guerre, la question c'est de savoir comment faire en sorte qu'il n'y ait plus d'insurrection, donc plus de résistance, ce qui évidemment est toujours compliqué puisque tous les peuples qui sont dominés résistent. Contre-insurrectionnel, ça veut tout simplement dire ça, c'est que n'importe quel pouvoir qui est fondé sur une conquête est contre-insurrectionnel dans la mesure où il est fait pour empêcher les résistances. Et donc, que ce soit en Égypte, mais ensuite en Algérie aussi, on a utilisé dans ce contexte, je ne dis pas que toute idée de tolérance est de cet ordre, mais on a utilisé dans ce contexte la tolérance de la religion musulmane comme une manière, en fait, de calmer les peuples, de leur faire croire que, ce qui était d'ailleurs souvent vrai, qu'on n'allait pas les convertir justement au christianisme pour ne pas provoquer des rejets du système et donc des noyaux d'insurrection et du coup, par voie de conséquence, c'est pour ça qu'on peut dire que le fait de respecter les déclarations de respect de la religion sont liées dans ces contextes-là à des techniques de gouvernement des populations dans la mesure où en fait ça permet de ne pas de faire en sorte de donner une légitimité au pouvoir en place en leur disant voilà, nous allons respecter vos coutumes, donc c'est pas la peine en gros de résister
vous à nous.
Exactement.
Et dans le livre, donc tu développes une théorie importante sur ça, c'est comment on va penser l'inconvertibilité.
Mm-hmm.
Justement, tu le dis, la sécularisation, ça apparaît presque comme une nécessité pour cet empire, du coup, qui se retrouve donc à avoir besoin de se présenter comme Bonaparte, finalement, comme n'étant pas un empire chrétien qui va reproduire les croisades et donc les tentatives de conversion forcée, mais qui, au contraire, donc, est un empire séculier, sécularisé. Et donc, il se distingue d'un point, de manière importante, du coup, des empires chrétiens à ce niveau-là. Mais il reprend cette thèse de l'inconvertibilité des musulmans, qui est une thèse assez ancienne, parce que donc, tu l'expliques très bien dans le livre, c'est une thèse qui date de la Reconquista, où quand les rois catholiques se réemparent de l'Espagne et donc mènent leur guerre contre le calife à l'Andalous, ils font des politiques de conversion forcée des juifs et des musulmans d'Espagne, mais ils leur attribuent des statuts spécifiques du fait de ce qu'ils appellent leur sang impur, et du fait que même leurs conversions sont vues comme suspectes de par le fait qu'ils soient juifs et musulmans, et que ce serait donc inscrit presque dans... On dirait pas dans leur gène à l'époque, parce qu'il n'y a pas de génétique au XVe siècle, mais c'est presque dans l'idée du sang, quoi.
Oui, c'est ça.
Et donc on a, et là, c'est ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a cette inconvertibilité qui, j'ai l'impression, entretient un rapport avec la mission civilisatrice, qui vient un peu se substituer à cette problématique de l'inconvertibilité des musulmans. Peut-être pas s'y substituer, mais en tout cas qui constitue aussi une réponse de l'Empire séculier, où on a cette idée que on va pas chercher à convertir les musulmans au christianisme, mais par contre on va chercher à les faire adhérer à la forme séculière de gouvernement impérial, qui est celle de l'Empire, et qui est celle qui promet la tolérance religieuse, et donc comme a dit Mariama, c'est la stratégie contre-insurrectionnelle qui est mise en place, mais qui prétend aussi réaliser réellement, du coup, les religions sur Terre par ce biais, si j'ai bien compris. Est-ce que tu pourrais peut-être plus développer là, ce point?
Oui, il y a plusieurs choses dans ce que tu as mentionné. C'est compliqué. Écoute, je vais faire l'inconvertibilité, parce que je pense qu'il y a quand même une question là-dedans, et la question de la réalisation des religions sur Terre, si j'ai bien compris, non?
Oui.
Je vois deux thèmes, là.
Et peut-être un troisième point sur la mission civilisatrice, après.
Ok, bon, alors.
Trois thèmes.
Je vais commencer par le dernier, sinon je vais pas m'en souvenir. La mission de civilisation est un acte de sécularisation. Pourquoi? Parce que, comme on voit, il y a mission dedans. Donc la mission, c'était... Enfin, c'est d'ailleurs toujours un acte qui consiste justement à convertir au christianisme, apparemment. Donc si on dit mission de civilisation, ça veut dire que c'est une mission qui convertit à autre chose qu'au christianisme. Elle convertit à quoi? Elle convertit à la civilisation. Qu'est-ce que la civilisation? La civilisation, c'est développer un certain type de subjectivité, développer un certain mode de vie, parler un certain nombre de langues, ou une langue, évidemment européenne, mais c'est aussi, en fait, et c'était surtout dans le cadre colonial, donner sa force de travail pour, quoi, l'avancement de la société, qui ne signifie rien d'autre que l'exploitation des terres et des sous-sols et des ressources naturelles.
Avec un rôle important de l'industrialisme dans tout ça, dans l'idée que ça participe au progrès de l'industrie.
Exactement. Ce qui m'amène du coup à la ta seconde question sur la réalisation des religions sur Terre. Le cadre de pensée dans lequel s'est formulée cette idée de mission de civilisation et de conversion des indigènes à la civilisation est un cadre, comme tu l'as dit, industrialiste. La perception qu'on a à cette époque-là, beaucoup d'acteurs, hein, je parle pas juste, c'est pas juste des idéologues, parce que justement ce qu'ils font, c'est qu'ils agissent et puis ils parlent de ce qu'ils font. Et du coup, ils disent que les religions, jusqu'ici, ont été des systèmes d'organisation des sociétés qui étaient limités. Bon, soit. Le christianisme, parce qu'il se représente les religions, l'histoire des religions et l'histoire des civilisations, justement, sous la forme du progrès. Donc ça progresse, c'est des progressions. Donc le christianisme, en fait, pour eux, n'apparaît plus comme la religion vraie, mais il apparaît comme la religion la plus développée, ce qui n'est pas du tout pareil, parce que c'est la dernière dans l'ordre, dans une ligne, sur une ligne progressive, d'accord? Il progresse, quoi. Donc la question, c'est de dire... C'est quoi la prochaine étape après le christianisme, d'une certaine manière? Eh bien, c'est donc de fonder une nouvelle religion. Et cette religion, elle devra être, pour ces industrialistes, je suis surtout en train de parler des Saint-Simoniens, en fait, mais on n'est pas obligé de compliquer la chose, mais disons, retenons que ce sont des industrialistes, considèrent qu'ils doivent réaliser sur Terre ce que l'évangile a dit mais a été incapable de réaliser à travers un ordre chrétien, bah, il faut le réaliser dans un ordre séculier et industriel, quoi, en gros. Et qui est le salut de tous par la redistribution des richesses, mais soumis quand même aux ingénieurs et en gros aux élites d'une certaine société qui mènent l'humanité vers de plus en plus de progrès, quoi, en gros. Donc, d'une certaine manière, la technoscience, les chemins de fer, l'exploitation des sols, la soumission de l'agriculture au régime bancaire, à la banque, évidemment, la combustion des énergies fossiles, dont le charbon à l'époque, bien sûr, tous ces actes sont considérés comme des actes spirituels. Mais littéralement, c'est-à-dire que c'est pas une métaphore, c'est ça qu'il faut comprendre, parce que ce sont des pratiques, ils sont très sérieux quand ils disent que c'est ça la religion. Ils disent n'allez pas à l'église, faites ça, c'est ça être un bon chrétien.
Ouais.
Vous voyez ? Et cet investissement sacral de l'industrie, s'il n'y avait pas eu ça à un moment donné, il n'y aurait jamais eu de laïcisation des sociétés. Parce qu'il a fallu transférer toute cette énergie sacrée, en un sens, toute cette dimension de sacralisation, cette spiritualité, cet investissement, qui est évidemment un investissement humain par beaucoup d'aspects, il a bien fallu le réinvestir ailleurs. Ben, ils l'ont réinvesti là-dedans. Voilà. Et donc, au bout d'un moment, quand vous le réinvestissez comme ça, au bout d'un moment, évidemment, vous pouvez vous en passer aussi. C'était ça l'idée, c'est ça toute la dialectique, en un sens. C'est-à-dire que, bon, au début, il y a cette espèce de fonction un peu sacrée, spirituelle, etc. Et puis, au bout d'un moment, on a oublié un peu cette base religieuse, etc., même de la société dans laquelle on vit et des pratiques que l'on fait. Elles se sont développées grâce à ça. Alors du coup, et alors évidemment, là je l'ai pas dit, mais les acteurs du second processus sont les mêmes que celui du premier, c'est-à-dire qu'ils appartiennent au même mouvement, ils se connaissent entre eux, ils font des dîners, ils sont des mêmes réseaux, etc.
C'est une oligarchie.
On peut dire ça comme ça, si on veut. Ça n'empêche pas qu'ils mettent en œuvre des institutions. Moi, je pense pas du tout. Alors, c'est intéressant que tu dises ça comme ça. Je le dirais pas comme ça, mais j'insiste par contre sur le fait qu'on a affaire à des institutions. C'est-à-dire, ils permettent à des institutions de se mettre en œuvre. Je considère pas du tout qu'il y ait comme ça un groupe de gens qui ait tout fait. Et voilà. Je suis pas en train de dire ce sont les élites le problème. Moi, je pense pas que ce soit que ça le problème. Ouais. Mais là, j'essaie de parler historiquement de ce qui s'est passé. Maintenant, sur l'inconvertibilité, tu as raison de mentionner la question du sang impur, c'est-à-dire mais si tu veux, l'idée c'est de dire que la représentation, effectivement, des juifs, des populations juives et musulmanes d'Andalousie, quand il y a eu la reconquête, que la représentation de leur inconvertibilité, ou plutôt de ce qui restait inconvertible malgré leur conversion au christianisme, j'essaie de dire que c'est ça probablement une des origines de ce qu'on appelle le racisme et la racialisation. Voilà. Et donc, si tu veux, l'argument fondamental, c'est de dire que les représentations qu'on a de la religion sont en fait liées à ce qu'on appelle la racialisation. Pas simplement récemment, comme ça a été beaucoup dit, mais en fait, dès le départ. Voilà.
Oui, puis en plus, si je peux ajouter peut-être un point sur ça, cette problématique du sang, en fait, elle continue effectivement dans les colonies, mais surtout par exemple dans les colonies en Amérique, où là, on a carrément des hiérarchisations institutionnalisées en fonction du sang. Et en fait, le sang occupe une place de plus en plus importante, parce que même quand il y a des formes de métissage dans les colonies européennes en Amérique, il y a toujours cette problématique du degré de sang noir qui est présent dans les individus pour définir leur statut social, etc. Donc ça joue vraiment une place importante, et ça c'est bien démontré dans le livre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu reviens sur l'opposition, du coup, ce qui se crée entre cet état séculier qui est en mission civilisatrice au pays des indigènes et les missions catholiques qu'il doit, avec qui il a un rapport conflictuel. Il les interdit pendant plusieurs décennies, je crois que c'est de 20 ans environ. C'est pendant le Second Empire, si je me souviens bien, je dis pas de bêtises.
C'est avant.
C'est avant le Second Empire, oui. Et donc après, ces missions catholiques sont de nouveau autorisées, mais elles sont considérées, comme tu l'as dit, comme un obstacle du fait qu'elles fanatiseraient le musulman qui est enfermé justement dans cette géographie coloniale. Mmh. Ça, c'est un concept aussi qui est intéressant. Peut-être pour les anglophones, tu le développes dans un article du Macquarie Institute sur la géographie coloniale.
Ah oui, t'as lu ça.
Et qui était intéressant, donc j'ai bien aimé. Donc voilà, tu développes cette idée-là. Et il y aurait cette idée que, finalement, la raison, comme tu le dis, elle naît en Europe, il y a l'exceptionnalité européenne, et il y a le fanatisme religieux d'Orient. Et donc c'est comme ça qu'il se crée un peu cette opposition entre Occident et Orient. Il y a l'Occident de la raison universelle et de la subjectivité libérée, donc de l'obscurantisme. Mm-hmm. Et il y a l'Orient fanatique, religieux, coincé en fait dans cette étape. Et avec après l'Afrique noire, elle qui n'est même pas en fait dans l'histoire, ni dans les questions de raison, où tu reprends cette métaphore d'Hegel où il dit le soleil de la civilisation se lève à l'est et va vers l'ouest, mm-hmm. et pour Hegel ne passe donc jamais en Afrique noire. Et là, donc sur l'appréhension que peut en avoir l'Empire, il y a cette idée que le musulman, c'est celui qui risque en permanence de se fanatiser, et qu'il faut tout faire pour qu'il se fanatise pas. Et c'est là que les catholiques deviennent pour l'Empire un espèce d'obstacle, finalement, qui se pose à la conversion, à la civilisation. Mmh. Et donc, finalement, cet obstacle qui se pose, il se pose aussi, et c'est un des points que tu développes, c'est un peu, je crois que c'est après justement tout ce sujet sur Indigena, il se pose aussi dans la question de l'extractivisme, où tu dis qu'il faut séculariser les sous-sols. Il faut les sortir de toutes les mystifications religieuses qui les entourent, et pour permettre leur extraction, justement, l'extraction. Est-ce que tu pourrais peut-être plus développer ce point
Ce dernier point. Ouais, alors ça, c'est en partie ce qui explique le titre du livre, qui a été étonnant pour un certain nombre de personnes, dont des personnes qui ont suivi cette recherche, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit le titre du livre. Alors que pour moi, c'est même si ça ne représente pas l'ensemble de ce qui se passe de ce qui est décrit dans le livre, pour moi, c'est d'une certaine manière la pointe la plus avancée du processus que j'essaie de décrire, quoi. Puisqu'en fait, j'aurais pu effectivement écrire simplement un livre sur, en gros, l'histoire du colonialisme au 19e siècle, avec les questions de rapport entre les processus de racialisation des populations et leur religion supposée, etc., etc. Bon. Mais du coup, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir justement aussi une analyse plus
fine.
Synthétique, fine, si tu veux, mais aussi plus compréhensive, en me disant, mais qu'est-ce qui se passe dans leur pratique et qu'est-ce qui change dans la structure matérielle de ce colonialisme-là? Moi, j'étais persuadé que ce qui changeait dans la structure idéologique de ce colonialisme, mais aussi des sociétés européennes au même moment, qui était une transformation du rapport au christianisme qui est liée à la transformation du rapport à la conversion. C'est-à-dire, on ne convertit plus au christianisme. Je me suis dit, mais il y a quand même autre chose qui se passe aussi au 19e siècle qui fait qu'on n'est pas dans le même colonialisme qu'avant, et quelque chose qui n'est pas simplement de l'ordre des idées, quoi. Et d'une certaine manière, c'est tellement évident qu'on ne le voit plus. Les énergies fossiles, le fait que c'est un impérialisme fossile, et que du coup l'extractivisme n'est plus juste un extractivisme qui consiste à s'approprier les terres elles-mêmes, parce que ça, c'était le cas de l'esclavage. Ça a été le cas, ça a été d'ailleurs surtout le cas de l'esclavage, mais aussi des formes, en gros, d'agriculture. Alors, certains marxistes diraient pré-capitalistes, etc. Bon. Mais en tout cas, on a affaire à des pratiques d'expropriation des terres, que ce soit les terres indigènes d'Amérique, et ensuite la surexploitation du travail des esclaves venus d'Afrique et déportés. Et en Angleterre, en gros, pour reprendre un peu une histoire familière, peut-être, parce que très assez marxienne, avec l'expropriation des paysans. Bon. Là, on est dans un cadre où c'est les empires sur la terre, quoi. Bon. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'était de me dire, parce que ça, c'était un peu, alors c'est pas simplement pour ça que je l'ai fait, mais c'était un peu déjà vu, et puis c'est surtout qu'on connaissait ça, quoi. Et je me suis dit, mais non, mais ça, d'accord, très bien. Et puis, il y a des nouvelles choses qui se passent d'ailleurs sur la Terre de ce point de vue-là, parce que je pense que l'intervention de la banque dans l'agriculture est quelque chose qui est assez spécifique. J'essaie de le mentionner à certains moments du livre, mais rapidement. Et je me suis dit, mais la chose la plus massive, quand même, qui se passe en termes de transformation du capitalisme, c'est le recours au charbon comme un combustible fossile. Et ça, je me suis dit, mais comment ils vont sous la Terre ? Parce que c'est ça qui est quand même le cœur battant de toute cette affaire, dans la mesure où, à un moment donné, l'hégémonie de l'Europe sur le reste du monde, avant le 19e siècle, c'est un désir, c'est un songe, mais ça n'est pas une réalité. Il faut savoir ça. C'est-à-dire au 15e siècle, 16e siècle, 17e siècle, l'Europe est un ensemble d'empires parmi d'autres. Parmi d'autres. Il y a d'énormes empires en Afrique. Il y a l'Empire ottoman, qui d'ailleurs bouche l'accès à l'Afrique du Nord et rend d'ailleurs la navigation en Méditerranée compliquée. Ouais. Bouche l'accès globalement à l'Asie. Jusqu'à ce qu'effectivement... Alors après, les Britanniques, évidemment, avaient une présence en Inde, etc. Mais, je veux dire, ils ont affaire à d'autres puissances. Je ne mentionne même pas la Chine et l'Empire moghol. Donc il faut se remettre la carte du monde en tête. L'Europe, c'est rien. C'est une civilisation marginale, peu civilisée d'ailleurs, pour, si on voulait reprendre ce terme, etc. Bon. Non, mais vraiment. Et il y a un moment où il y a un basculement. Et c'est un basculement qui est tardif, préparé par des siècles de colonisation, etc. Mais préparé, c'est-à-dire il n'est pas actualisé. Et le 19e siècle est le moment où il y a effectivement une hégémonie, d'ailleurs je dis l'Europe, je devrais dire une hégémonie de l'Europe occidentale. Europe occidentale. Et cette hégémonie, elle ne se fait qu'à partir du moment où, justement, à mon sens, il y a une forme de sécularisation, mais aussi à partir du moment où, de manière plus concrète et matérielle, il y a quelque chose qui fait qu'ils gagnent les guerres de manière...
systématique.
La vapeur. Et d'ailleurs, ils ne s'y sont pas trompés eux-mêmes, puisqu'il y a plein de textes de sacralisation de la vapeur. Ils continuent à dire, la vapeur, c'est un génie, c'est un esprit surhumain et surnaturel, c'est un dieu, etc. Il y en a plein des poèmes comme ça. Poèmes, textes de pseudo-littérature, etc. Bon. Et du coup, c'est parce qu'on se rend bien compte que c'est le cœur même de la puissance, en fait. Le cœur même de la puissance.
Particulièrement la puissance maritime, du coup. C'est ça qui est un
particulièrement
peu
la puissance maritime.
De la guerre, ça, tu y reviens un peu dans le livre, justement, tu expliques comment la marine bénéficie d'avancées technologiques massives par ce biais. Et c'est vrai que c'est, pour moi, c'est un point vraiment central que tu pointes sur la disparité des empires jusqu'à ce point de rupture. Et c'est vrai que moi-même, qui ai fait des études d'histoire, voilà, qui ai fait une licence, un master en histoire, on ne présente pas du tout comme un point de rupture le charbon. Et c'est là que la thèse novatrice du livre elle est intéressante, parce que c'est vrai qu'on a... c'est toujours plus, on va dire, implicite que revendiqué comme tel. Mais c'est vrai qu'on a presque l'impression que l'Europe se met à gagner toutes ses guerres par l'exceptionnalisme européen.
Pas du tout.
Et alors qu'en fait, toi, tu remets ça justement dans le contexte des énergies fossiles et de ce que ça procure comme puissance de feu... à l'Europe dans le cadre de ces guerres. Quoi.
À partir du moment où le charbon a donné ce type de puissance-là, rétrospectivement, on a pu dire nous avons vaincu parce que nous étions les meilleurs. Quoi.
Voilà.
Ce qui est très simple hein, comme processus.
Est-ce que tu pourrais un peu revenir ?
On l'aurait probablement tous fait, malheureusement.
C'est vrai. Et c'est une honnêteté intellectuelle que tu as qui est intéressante. Quand même.
De dire quoi ?
De dire qu'on aurait pu tous le faire et de ne pas dire, bon, en fait, c'est vraiment parce que c'est l'Occident, ils sont incroyablement.
Mais si je disais ça, je serais encore dans la même.
Tu serais un moderne, en fait, si tu disais ça.
Mais oui, évidemment. Et du coup, c'est pour ça que les ennemis de ces courants-là, bon, moi, je me fais facilement mettre dans la case des coloniales qui ne dit pas dire grand-chose. Enfin, si, elle veut dire une certaine orientation, mais bon, qu'est-ce que ça veut dire vraiment pour ceux qui l'utilisent? En général, c'est très vague. Alors, indigéniste, c'est encore pire. Voilà, mais tout simplement parce que j'ai le prénom que j'ai et que je parle de ces sujets. Alors déjà, c'est déjà suffisant, quoi. Et en fait, le problème, c'est que si moi, je ne m'y mets pas, moi et d'autres, on devrait s'y mettre. Mais je suis désolé, je suis un des rares, malheureusement, je suis désolé de le dire, ça peut sonner prétentieux, j'ai essayé de prendre la question à bras-le-corps, en fait, tout simplement, et sans passer par des euphémisations, etc. de facto, c'est censé être, par le fait même de le dire, quelque chose de culturaliste, etc. Vous accusez l'Occident, etc. Mais je n'ai pas de temps à perdre à accuser l'Occident d'être le mal sur Terre. Non. Même si c'était le cas, je passerais mon temps à faire autre chose. Et surtout, je sais très bien que c'est faux, puisque ça supposerait de dire l'Occident a quelque chose dans sa culture qui a fait que... Non. Un ensemble de contingences historiques qui a fait que, oui, à un moment donné, il y a eu une rupture de l'équilibre, en fait, entre les différentes puissances géopolitiques sur la Terre, soit. Par contre, que ça ait eu un impact climatique qui a engendré un ensemble de pratiques qui maintenant sont répétées par des puissances non occidentales, qu'on soit bien clair, oui. Mais qui a été amorcé par l'Europe, ça, c'est de l'ordre du fait. Enfin, du fait. Il n'y a pas de fait pur, mais c'est de l'ordre d'un travail scientifique et d'archives. C'est-à-dire, on peut discuter à partir de ça. Ouais. Ouais. Voilà, c'est tout. Mais non, je ne suis pas en train de dire l'Occident, pour ses raisons, je ne sais pas quoi, nous a... Mais ça, effectivement, c'est des simplifications dont j'ai bien vu que même certains intellectuels, s'ils laissaient aller, que veut-il dire il veut nous dire que l'Occident, c'est mal et que donc Dieu, c'est bien. Très bien, enfin, je veux dire, avec ça, on va nulle part, quoi. Bon.
Alors, revenons à l'expédition d'Égypte. Dans le chapitre 3, tu montres à quel point il y a un héritage de cette expédition, qui est l'indigénat, qui a été expérimenté en Algérie et puis dans le reste de l'Empire.
Ouais. Ouais, effectivement. L'indigénat, peut-être pour reprendre les choses depuis le départ, quoi. C'est-à-dire que l'indigénat, consiste à dire que, enfin, ça consiste pas juste à dire, c'est des lois en fait, un ensemble, c'est un statut d'abord. D'être un indigène signifie dans l'Empire français, d'abord en Algérie et après ailleurs effectivement, d'être considéré comme faisant partie de la nation française, sans être citoyen français. C'est ça l'indigène, l'indigénat. Ça veut dire donc on est français sans être citoyen. Bon, une des raisons pour lesquelles parfois certains groupes politiques ont repris ce terme en France aujourd'hui, c'était pour dire oui, ok, peut-être que vous nous considérez comme citoyens, mais en fait, en définitive, si on est toujours des citoyens de seconde zone, ça reproduit ce type de d'exclusion. Alors que bon, évidemment, c'est facile de dire par ailleurs, bon, mais oui, mais bon, il y a quand même une citoyenneté qui fait que c'est pas exactement la même chose qui a lieu. Et effectivement, moi, je dis pas que c'est la même chose qui a lieu, c'est-à-dire l'indigénat ne continue pas tel quel. En revanche, il y a des restes, des fragmentations de cette institution-là qui a été une institution, alors là, il faut appeler un chat racial, en fait, qu'a mis en place la France dans ses colonies. Mais voilà, bien sûr, d'autres institutions comme ça ont été mises dans, enfin, similaires ont été mises en œuvre dans d'autres empires. Tous les grands États européens ont mis ces institutions en place. Maintenant, enfin, des institutions similaires. Maintenant, l'indigénat en Algérie, ce qui est intéressant et dans l'indigénat, c'est ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'en fait, la raison pour laquelle on respecte, ou plutôt, pardon, avant de dire ça, la raison pour laquelle on exclut les indigènes de la citoyenneté française, c'est aussi parce qu'on reconnaît ce qu'on appelle leur statut personnel et donc des droits particuliers que n'ont pas les citoyens français. Vous voyez ? Donc, d'une certaine manière, ils ont des prérogatives que n'ont pas. Des avantages, on pourrait dire d'une certaine manière, si on voulait vraiment forcer le trait, que n'ont pas les citoyens français. Bon, je dis ça de manière provocante. Quels étaient ces droits qu'on appelle les droits personnels? Et justement, c'est des droits qui sont liés. C'est là que c'est pas juste une technique, c'est une institution à ce dont tu parlais tout à l'heure.
L'oligarchie.
Non, c'est lié à la question de la tolérance et le respect des religions. Parce que du coup, en fait, le droit personnel, c'est en gros, hein, le droit religieux recodifié par l'Empire qu'on applique aux indigènes. Ça veut dire, en gros, être musulman dans les colonies, ça veut dire quoi ? Ça veut pas dire être libre de choisir sa religion selon le principe du libre choix, etc. Non, non, non. En théorie. En pratique, ça veut dire être soumis à la charia, qui est appliquée par qui ? Par l'État français. Sur les populations indigènes. Donc, État laïque, État pas laïque, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'État colonial français en Algérie a recodifier, réorganiser la charia et l'a appliquée à ces populations indigènes. Ce qui faisait en sorte que être musulman, c'était être soumis à un ensemble de règles, alors que c'était aussi être soumis à un pouvoir islamique ou musulman qui était associé à l'Empire. Je ne suis pas en train de dire il y a les gentils et les méchants, d'accord ? De l'autre côté, ça veut dire aussi que si vous vous convertissez, ce qui était le cas, en tant que musulman, par exemple, je parle dans les colonies, hein, on parle aujourd'hui, vous vous convertissiez au catholicisme, vous deveniez pour les tribunaux administratifs, donc en gros pour l'institution juridique coloniale, des musulmans catholiques. Musulmans catholiques. D'accord ? Ça veut dire que là, on a affaire à la possibilité d'avoir deux religions en même temps. C'est quand même étrange pour un État séculier qui vient des Lumières, etc. Bon. Pourquoi est-ce qu'ils sont reconnus comme musulmans catholiques ? Eh bien, c'est parce que peut-être que confessionnellement, ils sont devenus catholiques, mais en termes du type de droit qui leur est appliqué, ils demeurent musulmans parce que, en fait, c'est la charia telle qu'elle est complètement transformée, en gros, en tant que droit familial, parce que, en fait, c'est devenu un droit matrimonial, en gros, à partir de la colonisation. On trouve ça dans d'autres pays musulmans, on pourrait en parler à voix dite à majorité musulmane, parce que ça fait aussi partie des pratiques, des processus de transformation et même de sécularisation du droit musulman. Il n'y avait même pas de droit musulman à proprement parler, tel qu'il y en a encore aujourd'hui, avant le 19e siècle. Vous voyez, il y a des transformations majeures qui se passent aussi de l'autre côté, entre guillemets. Quand moi, je parle de sécularisation, je critique pas simplement, bêtement, le laïcisme pour dire que l'islam c'est bien, c'est pareil, il y a des gens qui pensent ça, bon mais ça c'est parce que c'est les préjugés des gens qui n'ont pas réfléchi. Il est clair que de l'autre côté, les religions, pour parler comme ça, mais les traditions religieuses incluent l'islam, ont été transformées en fait par ce même processus. La sécularisation est quelque chose qui est interne à ces religions et parfois peut même conduire les religions non seulement à se transformer mais à s'intensifier. Ce qu'avait vu Marx d'ailleurs par rapport aux États-Unis, et il avait raison dans la mesure où en fait là il y a une sécularisation de l'État, c'est-à-dire une séparation de la religion et de l'État, mais qui conduit dans la sphère sociale à une explosion irrationnelle, intensifiée et individualiste de la religion chrétienne, les États-Unis. Donc, en fait, il n'y a pas eu de déclin de la religion. Alors, dans le cas des sociétés à majorité musulmane, c'est des processus qui sont complètement différents, mais je veux dire, les formes contemporaines de la religion musulmane, si tant est que ça existe de façon aussi simple que ça, elles ont été complètement transformées par les institutions modernes, le capitalisme et le colonialisme, et la conception du droit moderne napoléonien, qu'ensuite des élites musulmanes ont reprise et en fait intégrée à l'intérieur de leur propre tradition. Donc on n'a même pas affaire à une tradition qui serait comme ça pure. Ce qui montre en fait que ceux qui, à l'extrême droite, disent « Non mais si, il y a un problème fondamental entre eux et nous, etc. » Et les autres de l'autre côté, de l'autre côté de la Méditerranée, qui en gros disent quelque chose de similaire mais inverse, ils sont tous les deux dans un fantasme, quoi. C'est-à-dire qu'ils parlent de réalités qui, littéralement, n'existent plus. On a affaire à des hybrides, en fait.
Samuel.
Donc on voulait peut-être aborder, pour cette fin d'émission, la question écologique. Et peut-être que tu essaies de nous rappeler, avec plus de, en rentrant plus peut-être dans les détails, du coup, quelle est la thèse vraiment novatrice que du coup tu inities dans ce livre au niveau de l'écologie, mais que tu souhaites peut-être poursuivre après, mais qu'en tout cas est la plus grosse nouveauté peut-être du livre, conceptuellement.
Disons que le livre ne l'énonce pas vraiment comme ça, mais la manière la plus simple peut-être de le dire, c'est de dire la chose suivante, c'est que en gros on emploie le concept de modernité encore, à juste titre je pense, en disant, c'est pas possible d'analyser la modernisation des sociétés sans envisager, prendre en compte, leurs conséquences, leurs implications environnementales. Mais le problème, c'est comment est-ce qu'on les analyse, ces sociétés modernes ? Et bien justement, le concept de sécularisation me paraît, de laïcisation, de désenchantement, tout ça c'est des synonymes, me paraît, et je ne suis pas le seul, inévitable pour définir ce qu'on appelle la modernité. Donc en gros, si la modernité C'est en gros pour schématiser l'Anthropocène que la modernité a et fait partie des causes du réchauffement climatique. Ben, la question de savoir comment la sécularisation intervient dans ce processus. Donc si modernité égale Anthropocène, que modernité égale sécularisation, alors dans quelle mesure la sécularisation a contribué au réchauffement climatique et donc à l'émergence de ce qu'aujourd'hui on appelle parfois Anthropocène. D'où le fait d'avoir, c'était en partie une provocation, parler de sécularocène, dans le fait de dire, mais justement, comment poser cette question? Puisque souvent, on a dit, et à très juste titre, c'est pas l'humain, l'être humain qui a causé par lui-même en tout temps et en tout lieu de la planète, ce qu'on appelle le réchauffement climatique, parce qu'on sait, ça a été 10 000 fois, il faut le redire, c'est une partie en fait de ce qu'on appelle l'espèce humaine qui a contribué à mettre en œuvre le système qui est en train de détruire la planète, probablement la planète sur laquelle on est, ou en tout cas plutôt plus précisément remettre en cause l'habitabilité pour nous humains de cette planète. Mais c'est pas juste les humains qui l'ont fait, c'est pas juste les occidentaux, c'est en vérité le système moderne qu'on a mis en place depuis, en gros, le 15e siècle pour faire long, le 19e siècle pour faire court. Donc, c'est comme ça que je formulerai la question, et c'est simplement d'avoir ramené la question de la sécularisation et de la transformation donc, des rapports entre politique et religion au cœur, en fait, de l'analyse du processus de la modernité et donc des processus de transformation environnementale. Ça, c'est vraiment la thèse la plus générale. Il y a plusieurs thèses spécifiques à l'intérieur du livre qui consistent justement, d'une certaine manière, j'ai envie d'appeler ça une sorte d'histoire par couche. C'est-à-dire que ce que j'ai fait, c'est que j'avais déjà analysé des événements dont on a parlé, dont l'expédition d'Égypte, par exemple. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de reconsidérer les mêmes événements sous un autre angle. Avec un point de vue souterrain, justement. Il y a ce qui se passe sous terre, il y a ce qui se passe sur les eaux, il y a ce que disent ce que se disent les êtres humains les uns aux autres à ce moment-là de l'histoire, et il y a ce qui se passe au même moment, impliquant les mêmes personnes, les mêmes institutions, les États, les armées, les bateaux, et de dire, mais comment ils fonctionnent en termes énergétiques et qu'est-ce qu'ils font au sous-sol, quoi. Voilà. Une question qui semble étrange, mais en fait, c'est une question qui est très matérielle et matérialiste, en fait, au sens philosophique du terme. Et là, j'ai découvert que le Premier Empire avait une politique d'extraction des sous-sols et surtout de définition des sous-sols comme étant de l'ordre de la propriété publique, donc d'appropriation par l'État des sous-sols, qui m'a paru hyper important, et ce que veut dire aussi des empires sous la terre, et comme tu l'avais mentionné la dernière fois, de désenchantement des sous-sols en transformant la conception même des sous-sols, sachant qu'avant on considérait que globalement les sous-sols étaient habités par des forces non humaines, plus ou moins surnaturelles si tu veux, mais qui étaient des forces démoniaques, des esprits, etc. Bon. Donc on n'entrait pas dans les sous-sols comme ça. C'est-à-dire que là, il y a un changement de croyance qui crée un changement de pratique, quoi. C'est pour ça que c'est important de s'intéresser à ce que les gens croient. C'est que ça transforme la façon dont ils agissent, quoi. C'est pas juste secondaire. Maintenant, on me pose parfois la question de savoir qu'est-ce que ça change d'un point de vue politique. Et pour l'instant, je dois avouer que je suis en exploration de ce que ça change, parce que je considère qu'au moins, il faut qu'on change un peu le diagnostic, quoi. Et que pour l'instant, le débat écologiste, il se fait sans prendre en compte ce genre de choses et sans faire des connexions entre les événements. Donc pour moi, ça a d'abord été réécrire l'histoire des soi-disant causes ou des causes supposées de ce qu'on appelle le dérèglement climatique, quoi. En amenant parfois des causes qui, a priori, n'avaient rien à voir d'abord avec la chose même, quoi.
Samuel ?
Donc, c'est intéressant comme question, mais du coup, j'ai l'impression que ça revient un peu à ce dont on parlait en début d'émission quand je te disais, est-ce qu'on peut dire que le sécularocène, ou en tout cas le processus de sécularisation, c'est un processus de transformation des consciences. Et du coup, là, selon toi, tu poses un problème de prise de conscience vis-à-vis donc de ce rapport au monde, à la manière dont on va le définir, parce que la pensée séculaire, tu l'as dit, définit le monde et le rapport qu'on entretient à lui.
Elle impose le monde comme le seul réel.
Ouais. En fait, elle statue sur des choses qui se situent en dehors de l'expérience, finalement.
Elle sait exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, en prétendant nous libérer ou nier la réalité d'entité métaphysique ou théologique, etc., ou spirituelle, auquel se réfèrent des peuples, qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire vous pouvez ne pas y croire, c'est pas le problème, en fait, c'est de dire beaucoup de gens y croient. Et donc, à un moment donné, on a dit non, ça n'existe pas. Bon, une décision, parfait. On peut juger de cette décision en fonction de ses conséquences et de ce qu'elle a mis en œuvre. Mais c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, même en disant ça n'existe pas, vous êtes obligé de vous y rapporter,
oui,
en fait.
Logiquement. Et en fait, la question, du coup, l'accaparement politique de cette question, c'est... et en fait, c'est ce que tu as formulé aussi en début d'émission, mais je trouve que c'est bien de le rappeler, justement, c'est de dire dans quel objectif on a voulu statuer sur ces choses-là, en fait. Qui a voulu statuer sur ces choses-là et pourquoi il a voulu statuer sur ces choses-là et pourquoi il a voulu imposer sa réponse comme étant une réponse universelle et à universaliser, quoi.
Mm-hmm.
Et donc là, du coup, ça pose une... Je trouve que cette réflexion nous amène à une autre question, c'est... Puisqu'on a critiqué le concept de religion, on a vu d'où il venait, il y avait un problème déjà pour penser, bon, par exemple, l'islam dans une forme de conceptualité donc qui s'avère finalement être orientaliste. Et pour penser même, par exemple, des formes de pratiques prémodernes. Et on a posé les problèmes qui avaient avec cette conceptualité. Et oui, ça nous force à revenir sur un petit peu un trope qui est finalement admis, j'ai l'impression, à la fois comme... Enfin, qui structure en tout cas le champ de toutes les sciences sociales, mais en même temps le champ militant politique, qui est de dire la religion, c'est la projection par l'homme dans ses propres produits, dans ses propres créations, des effets sociaux de son existence sociale. C'est à peu près, étant entendu, voilà la définition.
Ouais.
Donc toi, est-ce que c'est une définition que tu récuses? Et comment on pourrait penser les choses autrement? Ou qu'est-ce qui, selon toi, devrait être la marche à suivre, pour la théorie en tout cas, pour repenser ces questions différemment, quoi?
Ouais, c'est une bonne question. Donc par exemple, la conception selon laquelle la religion est l'expression de la société, etc.
Par exemple.
Bon, alors... effectivement, religion est un terme dont il faudrait essayer de se passer. Là, je suis en train de finir un manuscrit qui va devenir donc mon second livre, qui va être publié dans une maison d'édition qui d'ailleurs essaie collectivement de faire un effort pour répondre à la question que tu as posée, qui s'appelle Vue de l'esprit, qui est spécialisée en anthropologie en gros. Et en ce moment, j'essaie de décrire la religion, même quand je le mentionne, en le barrant, ce mot. La question, c'est de savoir comment penser sans ce mot, puisque ce mot est problématique et qu'en fait c'est en partie une illusion, puisqu'il se réfère à quelque chose de très vague, en partie à une illusion. Ça veut dire que derrière religion, il y a plein de choses différentes. Voilà. Il faut s'imaginer que nous, on appelle ça religion, ok, mais qu'en fait, ça se réfère à quelque chose de très vague, et en fait, derrière ce mot, il faut s'imaginer qu'il y a une foule de choses très différentes les unes des autres, hétérogènes, mais aussi potentiellement incompatibles entre elles. En gros, c'est pas une seule chose. Il n'y a pas la religion. Ça n'existe pas. C'est une vue de l'esprit, justement. Au mauvais sens du terme. Donc, le problème, c'est pas qu'il faudrait être pro-religieux ou anti-religieux. Tout de suite, il faut être très clair sur cette affaire. Dire la religion, c'est bien, parce que ça sert à tenir ensemble un peuple et à gouverner les gens et à faire en sorte que les femmes soient bien obéissantes et à la maison. Ça, c'est un gros problème, évidemment.
Ouais.
D'accord ? Que ça soit clair, quoi. Bon. Mais dire la religion, c'est nul, ça opprime les peuples partout sur la terre, etc., c'est la même chose à l'inverse. C'est-à-dire que les deux sont des illusions. Alors, il y en a une qui se considère comme non réactionnaire, mais à mon avis, elle l'est. Personnellement, je pense qu'elle l'est.
Je pense aussi, ouais.
Et surtout, elle n'est pas matérialiste, au sens, elle n'est pas rigoureuse. C'est-à-dire qu'un marxiste qui me dit, moi je suis un matérialiste historique, et qui me dit, la religion opprime les peuples sur toute la Terre, pour moi, il y a une inconséquence. C'est une inconséquence qui a une histoire forte, puisqu'elle se trouve en partie chez Marx. C'est-à-dire, en gros, si on part de l'idée sur laquelle la religion c'est bien, la religion c'est mal, en fait, on est en train de dire des fausses évidences un peu creuses, quoi. Donc il faut aller au-delà de ce truc. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est comment on les repense différemment et qu'est-ce qu'on fait aussi politiquement à partir de ça. Bon, alors je vais essayer de répondre d'abord qu'est-ce qu'on fait en termes de savoir, et puis d'ailleurs, j'essaie de répondre politiquement aussi parce que je pense que tu voulais parler de ça à un moment donné. En fait, je suis en train de réfléchir à cette question, donc je ne vais pas donner une réponse absolument stable. Mais il y a deux choses qu'il faut faire en termes de savoir critique, à mon avis, qui ont déjà été amorcées. Hein. Je ne suis pas en train de dire que j'invente tout ex nihilo. La première chose, c'est d'avoir une vraie conception matérialiste des phénomènes qu'on dit religieux. C'est de montrer que justement la sécularisation, les processus de modernisation, dont le capitalisme, ont transformé les traditions spirituelles, autochtones et indigènes de par le monde, les ont transformées de l'intérieur. Voilà. Donc on a parlé du christianisme en Amérique. Le christianisme en Amérique, c'est un christianisme capitaliste qui n'est d'ailleurs même pas la même chose que le christianisme en Europe. En un sens, presque envie de dire rien à voir. L'hindouisme en Inde, en ce moment, par exemple, c'est très difficile de dire c'est la religion le problème. Non, l'hindouisme est une tradition culturelle et religieuse qui a été nationalisée à travers un état-nation. C'est quand même nouveau, ça. Ça se passait pas comme ça pendant des millénaires. En ce moment, les femmes iraniennes, elles luttent pour l'abolition des lois en fait qui forcent à porter le voile. Je suis désolé, elles ne luttent pas contre une religion, elles luttent contre un État.
Oui.
Bonjour. Donc ça, c'est non, mais ça,
non, c'est très bien de le dire.
Non, mais c'est typique. C'est typique de la manière dont fonctionne la catégorie de religion, qui est une mauvaise vue de l'esprit qui fait dire des choses absurdes et conservatrices. C'est-à-dire, oui, elle lutte contre l'islam, mais n'importe quoi. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Elle lutte contre un État qui, certes, se définit, lui, idéologiquement comme islamique, mais je veux dire que c'est un État qui représente ce qu'est l'islam, etc., c'est faire de la théologie, c'est-à-dire que c'est, en fait, être un mauvais imam, quoi. Non, mais si, bien sûr que si. Non, mais c'est pas une blague, c'est-à-dire, c'est dire... Oui, oui. Donc, vous dites, en fait, que cet État est effectivement... il est effectivement de l'ordre de l'islam. Mais qu'est-ce que vous en savez, en fait? À moins que vous fassiez de la théologie, mais dans ce cas-là, vous le dites de manière... Bon. Ça, c'est la première chose. Donc, en gros, je veux dire, historiciser au maximum ce qu'on appelle religieux et dire que ce qu'on appelle religion aujourd'hui dans le monde, c'est quelque chose qui a été complètement transformé de fond en comble par le système moderne et aussi par des forces séculières. C'est pour ça qu'on a affaire à des hybrides. C'est jamais du pur religieux, là. C'est à la fois de la politique et de la religion, c'est à la fois du profane et du sacré, c'est à la fois du laïque et du religieux qui sont hybridés, mélangés tout le temps. D'accord ? Maintenant, politiquement, ça veut dire justement, et normalement, si on entend bien, ça s'en déduit, ça veut dire que il n'est plus intéressant, à mon avis, mais on n'en est pas encore là politiquement probablement, de dire seulement... il faut que les peuples croient de moins en moins à aux religions, à Dieu, qui est une absurdité, etc., etc., machin, bon. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il faudrait déployer des formes de double critique. En analysant la manière dont il y a effectivement des mouvements conservateurs à l'intérieur des traditions religieuses, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais pour lutter contre eux, est-ce qu'il faut vraiment mépriser les peuples qui peuvent y croire à certains moments donnés, en faisant une chose qui s'est beaucoup passée avec le laïcisme plus ou moins importé d'Occident dans certains pays, mais qui était surtout un laïcisme autoritaire. C'est mon problème, pas vraiment qu'il est occidental, c'était qu'il était très autoritaire, mais c'est aussi qu'il était très élitiste, et que la gauche, même radicale, marxiste, alors l'anarchisme a eu moins d'influence, mais dans des pays non occidentaux et notamment des pays dits à majorité musulmane, mais c'est qu'ils sont complètement marginaux, parce qu'ils sont en fait, très paradoxalement, bourgeois. Pourquoi bourgeois? Mais parce qu'en fait c'est une toute petite élite qui n'a pas de prise sur les populations. Donc soit vous méprisez le peuple qui est le vôtre en disant mais de toute façon ils croient à des bassesses religieuses, etc. Alors c'est un choix, mais dans ces cas-là vous pouvez pas tout à fait parler, vous avez pas de moyen d'agir sur le peuple et de parler réellement de démocratie, quoi. C'est ça le problème.
Moi, je t'avais entendu faire une distinction que je trouve intéressante. Tu voulais distinguer de la religion la tradition, qui est plutôt centrée sur les pratiques, du coup. Donc, tu voulais plutôt dire qu'il y a des traditions, des ensembles de pratiques qui, après, sont instituées, institutionnalisées et structurées par des institutions, en l'occurrence, par exemple, sur le cas du catholicisme, l'Église catholique. Mmh. Et là, ça devient des orthodoxies.
Oui.
Ce que tu distinguais, du coup, des traditions.
Oui.
Distinguais tradition et orthodoxie. Et je trouvais que cette distinction, elle pouvait être intéressante pour peut-être apporter un début de réponse.
Oui.
Et avec, bien sûr, du coup, l'idée que cette orthodoxie, qui dans le christianisme et pour le cas de l'Église catholique, donc c'est traduit dans une institution religieuse dont on sait qu'elle est constitutive donc de l'Occident médiéval, à minima, a effectivement, comme tu l'as dit pour l'hindouisme, et c'est ça qui est très intéressant, constitue une institution séculière ou sécularisée et dans la forme nationale et dans le rapport avec l'État-nation, justement.
Mm-hmm.
Et en fait, on voit qu'en fait, la question centrale, finalement, peut-être qui devrait être l'angle d'attaque, c'est la question du pouvoir. Et dans, en fait, de qui s'accapare des traditions pour leur faire dire quoi et dans quel but de maintenir quel pouvoir. Ça, c'est une piste que j'avais trouvée intéressante dans ce que tu as dit.
Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, il ne peut pas y avoir juste une critique de la religion qui ne serait pas en même temps une critique de la politique, quoi. En gros, ouais. Effectivement, la question... Alors, en gros, c'est ce que je pense, beaucoup diraient, bon, c'est une instrumentalisation politique. Bon, je pense que c'est toujours plus que des instruments. Mais de fait, en Occident, enfin, même pour parler plus de façon plus... oui, en Occident, et particulièrement en France, la nature même de l'anti-religion ou de l'anticléricalisme dans la société française est complètement liée au fait que la France était la fille aînée de l'Église. Donc, en fait, être anticlérical, c'est de toute façon être clérical dans la mesure où vous allez avoir une représentation de la religion que vous exécrez qui n'est que le catholicisme, peut-être même dans sa forme française.
Oui.
Donc, qui est très local, en fait. Vous universalisez quelque chose qui est en fait lié à une forme de pouvoir bien précise. On sait que dans d'autres traditions, il n'y a pas d'église au même sens. Et d'ailleurs, il y a des grandes différences entre l'église chrétienne, en gros, orientale, et puis ce que c'est devenu à Rome, quoi, en Occident. Bon. Donc oui, donc là, on a affaire à une forme de pouvoir bien particulière. Et en fait, derrière religion, là, il faudrait multiplier. Il y a église, il y a orthodoxie, et rapport entre orthodoxie et hérésie, qui sont des termes que vous pouvez même pas traduire immédiatement dans un cadre musulman. Par exemple, fitna, c'est pas vraiment hérésie, etc. etc. Bon, il faut rajouter impérialité dedans. Moi, j'utilise ça pour essayer de comprendre la sécularisation, mais j'essaie de montrer justement qu'il y a une impérialité du pouvoir ecclésial au Moyen-Âge. Pourquoi ? Parce qu'il y a une influence du modèle romain, c'est-à-dire ils se prennent pour Rome, ils se prennent pour l'empereur, justement. Ouais. Et ça, depuis Constantin, au moins, dans le christianisme, il y a eu cette ambiguïté de dire « bon, le christianisme va devenir une idéologie de l'Empire romain après que l'Empire romain, évidemment, ait été une force, en gros, antichrétienne, quoi. » Mais vous voyez, là, il y a tout un programme de recherche qui consiste à, évidemment, parler de ce qu'on appelait avant religion, mais du coup, de pluraliser tellement la notion qu'en fait, on va pouvoir se réintéresser à ces choses de manière réellement complexe, etc. Bon, ça intéresse pas forcément énormément de personnes, mais quoique, on sait jamais. Mais c'est un travail qui est hyper nécessaire, même la catégorie de monothéisme. Je suis en train, en fait, de finir un livre qui va parler de tout ça, ou en tout cas, de manière un peu moins historique. Du coup, oui, je veux simplement dire quelque chose de plus simple par rapport à ça et de peut-être conclure là-dessus, mais la pensée, disons la critique des religions, la pensée laïque, qu'est-ce qu'elle a eu d'émancipatrice ? Voilà. C'est quand même pour faire comprendre que c'est pas juste une critique unilatérale. Elle a été émancipatrice dans le fait de dire il y a des formes de pouvoir qui s'exercent au nom de Dieu et qui n'ont pas à s'exercer au nom de Dieu. Évidemment, je suis d'accord avec ça. Mais le fait de parler au nom de Dieu et d'exercer un pouvoir terrestre au nom de Dieu n'est pas essentiel à toutes les formes de théologie et toutes les formes de monothéisme. La question, c'est de savoir quelles sont les formes de pouvoir qui ont permis aux hommes, à un moment donné de l'histoire, de se revendiquer de Dieu sur Terre. Parce qu'on pourrait tout à fait dire, même d'un point de vue intra-religieux, de dire, mais pour qui vous vous prenez, en fait ? Qui vous donne le droit de parler ? C'est-à-dire, si vous considérez que Dieu n'existe pas, bon, de toute façon, vous pouvez parler en son nom parce qu'il n'existe pas, soit, mais vous pouvez aussi dire, mais pourquoi vous parlez en son nom, justement, parce qu'il existe et que vous n'avez rien à voir avec lui, en fait ? Donc, qu'est-ce qui vous donne le droit de le faire ? Et en fait, d'une certaine manière, en Occident, on peut dire que l'impérialité, c'est ce qui leur a donné le droit de le faire. C'est-à-dire de se dire, nous sommes les successeurs de Rome et les représentants de Dieu sur Terre. Qui est le statut que s'est attribué l'Église. Bon. Je ne suis pas chrétien. Si j'étais chrétien, je pense que j'aurais tendance à dire que cette légitimité que s'est arrogée l'Église n'est même pas une légitimité chrétienne, ou elle est contestable d'un point de vue spirituel. Elle est contestable d'un point de vue spirituel. On n'a pas besoin de devenir nécessairement anti-religieux ou anti-clérical pour remettre en cause la légitimité spirituelle de ce qu'a fait l'Église et de ce qu'elle a pu faire de pire ou qu'elle fait encore de pire. Vous voyez ? C'est ça que je veux dire. Et je pense que si on entendait davantage ce type de voix dissidente, dissonante, à l'intérieur des traditions religieuses elles-mêmes, on aurait beaucoup plus de ressources. Pas simplement en politique, imaginaire en fait, artistique, culturel, etc. Et même philosophique en fait, créative en fait. Mais on est dans un cadre, dans la société dans laquelle on vit, en tout cas en France c'est très clairement comme ça, où d'emblée, en vérité, on a peur de ce genre de discours, on veut faire en sorte que ça n'existe pas alors que ces discours existent, parce que d'emblée, on est ramené à une position qui serait la nôtre alors que c'est pas la nôtre, qui est en gros la pire des positions possible dans le spectre de telle ou telle tradition religieuse. Donc c'est très marrant. C'est-à-dire on a un système, en fait, qui vous pousse à être soit laïciste, quoi, soit ultra-religieux, mais ultra-conservateur. Et là, ça passe, en fait. Parce que du coup, d'une certaine manière, tout le monde, les gens sont les uns contre les autres, mais au moins, on sait qui est qui. Par contre, si vous dites « Mais en fait, je suis ni l'un ni l'autre », personnellement, je suis ni l'un ni l'autre. Mais en fait, vous avez plus de place.
Ouais,
c'est ça. Et donc, et en fait, c'est cette place qu'il faut prendre, quoi.
Merci.
Magnifique conclusion.
Magnifique conclusion. Merci, Mohamed.
Merci.
Merci à vous.
Bon, alors, nous vous remercions de votre écoute, chers auditeurs. Nous vous rappelons que vous étiez dans l'émission Pas de quartier du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire 89.4 FM. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
Merci, à bientôt.
Quand il sentit le gosse remuer, je me tournis contre le mur et je me mis à chialer comme un con.
Ah, alliez-vous donc les filles, ah, alliez-vous donc les gars.
Je me tournis contre le mur et je me mis à chialer. Ne pleure pas mon petit Pierre, parce que je t'en coquifié comme un con.
Ah, allez-vous dans les filles, ah, allez-vous dans les gars.
Ne pleure pas mon petit Pierre, parce que je t'en coquifié. Je t'achèterai une vague ben encornée comme un con.
Ah, allez-vous dans les filles, ah, allez-vous dans les gars.
Je t'achèterai une vague ben encornée. J'y couperions les cornes, et je te les ferons porter comme un con.
Ah, allez-vous dans les filles, ah, allez-vous dans les gars.
Si couperions les cornes et je te les ferons porter, on dira dans le village,
v'là le cocu de parabé comme un con. Ah, allez-vous dans les filles, ah, allez-vous dans les gars.
Tell him the trouble on the old Chisholm Trail. Come a kaya, yippee, yippee, ya, yippee, yay. Come a kaya, yippee, yippee, yay. Started up the trail October 23rd. Started up the trail with the two you heard. Come a kaya, yippee, yippee, ya, yippee, yay. Come a kaya, yippee, yippee, yay. $10 horse and a $40 saddle. And I'm gonna cut them Texas cattle. Come a kaya, yippee, yippee, ya, yippee, yay. Come a kaya, yippee, yippee, yay. Woke up one morning on old Chisholm Trail, my rope in my hand and a cow by the tail, singing kaya, yippee, 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 yay, come a kaya, yippee, yippee, yay. Cloudy in the west and I'm looking like rain, but dang those slickers in the wagon again, come a kaya, yippee, 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 yay, come a kaya, yippee, yippee, yay. Jumped in a saddle and I grabbed out a horn, the best blamed cowboy ever was born, come a kaya, yippee, 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 yay, come a kaya, yippee, yippee, yay. Don't give a damn if I never do stop. I ride just long as an 8-day clock. Come a kaya, yippee, 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 yay. Come a kaya, yippee, yippee, yay.
foot in the stirrup and a hand on the horn, the best dang cowboy ever was born. Come a kaya, yippee.